Consacrons cette soirée, comme vous n'ignorez pas, à la Médée de Sénèque, avec Marie Nicolas, que vous connaissez déjà, et puis Blandine Caillé, qui a fait l'édition bilingue d'ailleurs de Feu le Théâtre, que nous allons commenter ce soir et lire partiellement. Donc, je me trouvais dans l'autobus, j'ai laissé tomber mon livre et ma voisine d'en face m'a dit « Ah, je ne savais pas qu'il y avait écrit des pièces, Sénèque. » Et donc, je pense qu'il y a lieu de rappeler, pour commencer, cette double activité, où j'ai même la triple activité de Sénèque, pour tout le monde.
Ben oui, puisque donc Sénèque, il a vécu au premier siècle de notre ère, plus fort. Donc Sénèque, je vais faire comme à l'université quand je fais mes cours magistraux, il a donc vécu au premier siècle de notre ère, et comme vous le savez sans doute, ça a été un homme politique proche du pouvoir, puisqu'il a été le précepteur de l'empereur Néron et son proche conseiller. Et donc il a eu en quelque sorte une triple activité d'homme politique, très très proche des plus hauts cercles du pouvoir. Ça a été aussi un philosophe stoïcien qui a écrit de nombreux traités. Et puis il a eu parallèlement cette activité de dramaturge avec plusieurs pièces qui toutes tournent autour du thème de la monstruosité et aussi du thème du pouvoir, du pouvoir tyrannique.
Ce sont des pièces qui ont été très connues, pour certaines d'entre elles au moins, à l'époque classique européenne, n'est-ce pas ?
Ce sont des pièces qui ont façonné en fait le théâtre européen, particulièrement le théâtre baroque, parce que les pièces de Sénèque sont des pièces qui sont extrêmement exubérantes, extrêmement sanglantes. Elles ont été en revanche assez méprisées à la période classique, parce que précisément elles s'opposent à la bienséance, au bon goût et à la vraisemblance qui sont les sacro-saintes règles du théâtre classique. Donc Sénèque a été vraiment complètement banni de la scène française à partir du XVIIe siècle.
Alors une autre particularité que vous soulignez, c'est qu'on ne sait pas à quelle date ces pièces ont été écrites.
Oui, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre dans la vie de Sénèque, et pendant très longtemps, enfin jusqu'au XIXe siècle, on s'interrogeait sur qui était l'auteur vraiment de ces tragédies. Certains disaient que ça ne peut pas être Sénèque le philosophe, parce que ces pièces sont beaucoup trop médiocres pour qu'on puisse les attribuer à un philosophe aussi brillant que Sénèque. D'autres pensaient qu'il y avait en fait plusieurs auteurs du nom de Sénèque. On est allé même jusqu'à attribuer ces pièces à 2, 3, 4 auteurs différents. On s'accorde de nos jours à dire que les pièces qu'on attribue de nos jours à Sénèque sont bien de Sénèque et à trouver qu'elles ne sont pas aussi médiocres qu'on a pu le dire et pas aussi injouables aussi qu'on a pu le dire, puisque pendant très longtemps l'opinion générale c'était que ces pièces étaient immontrables, injouables en fait, sur scène.
Est-ce que vous avez pu établir une parenté entre le style de dramaturge et celui du philosophe?
Je ne me suis pas prêtée à cet exercice, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les pièces de théâtre de Sénèque sont pétries de sentences stoïciennes, c'est-à-dire qu'elles transpirent le stoïcisme du philosophe, hein, la Médée de Sénèque également. Donc il y a une mise en scène, il y a une conception de la passion, par exemple, qui coïncide tout à fait avec ce que le philosophe stoïcien raconte de la passion. Une description de la colère, pareil, qui sont tout à fait conformes, et aussi une présentation du pouvoir monarchique, lorsque le monarque se transforme en tyran parce qu'il refuse tout conseil et il s'abandonne au flot de ses propres passions et de sa propre violence. Cette mise en scène des tyrans dans les pièces de Sénèque sont là encore complètement en accord avec ce qu'il raconte dans ses traités sur l'isolement progressif du tyran et sa transformation en monstre lorsqu'il ne veut plus écouter qui que ce soit autour de lui. Donc il y a des parentés, certains se sont amusés également, un auteur qui s'appelle Désiré Nisard au XIXe siècle, à repérer des rythmes poétiques à l'intérieur des traités de Sénèque et inversement à détacher des petites sentences stoïciennes à l'intérieur de ses pièces de théâtre. Donc il y a effectivement beaucoup de concordances.
Finalement, si on met, comme vous l'avez fait dans votre préface, en rapport le traité d'Eira de la colère,
oui, voilà.
Avec, oui, si je me trompe, la formule Ira furor brevis est, la colère est une courte folie, là nous avons une longue folie,
oui.
Une longue furor.
Alors il y a surtout dans ce d'Eira, effectivement, la description de la passion de la colère comme d'un incendie qui va embraser l'âme et le corps. Et bien dans la Médée de Sénèque, on verra à travers des extraits qui vont être lus que la passion de Médée, c'est un embrasement au sens propre du terme. Elle brûle véritablement et ce feu va se communiquer au monde autour d'elle. Elle va embraser la ville qui l'entoure. Donc il y a effectivement cette... ça n'est même pas une métaphore du feu parce que chez les stoïciens, c'est vraiment un véritable feu qui brûle l'intérieur de l'être lorsqu'il cède aux passions.
Et c'est à partir de là on peut caractériser l'art dramatique selon Sénèque.
C'est compliqué, mais il y a des constantes dans le théâtre de Sénèque. Une des constantes, c'est son côté déclamatoire. C'est-à-dire que c'est vrai que la dramaturgie est souvent réduite à peu de choses, à la confrontation de deux personnages qui se lancent dans des tirades assez emphatiques, mais aussi assez puissantes. Il y a vraiment une puissance du verbe de Sénèque. Je pense que la lecture que Marie Micla va nous donner dans quelques instants vous en donnera un bon aperçu. Il y a une autre constante dans le style de Sénèque, c'est, je dirais, son mauvais goût et son outrance. C'est-à-dire que Sénèque a véritablement la volonté de ne pas faire quelque chose de joli, d'élégant, mais la volonté de faire quelque chose de puissant et d'assez provocateur. Et notamment, il y a une forme de complaisance dans la description du corps souffrant, dans la description du crime, qui a beaucoup choqué hein, dans la sensibilité des siècles passés, parce que voilà, quand on assassine un enfant, et quand on le découpe en morceaux, eh bien, on va avoir une description très anatomique, très précise de la boucherie qui a lieu, donc comment on désosse les articulations, comment on étripe, comment on fait cuire les morceaux dans de l'eau, à la broche, etc. Il y a une forme d'excès, d'exubérance complaisante qu'on peut ne pas apprécier, mais qui si on devait caractériser cette esthétique, on pourrait dire que c'est une esthétique baroque. Qui rejette le bon goût et qui se tourne du côté de l'excès, de la profusion, de la couleur, de l'outrance.
On peut dire que ce goût de l'horreur est quelque chose, oui, qui revient périodiquement dans le théâtre. Il y aura Crébillon au début du 18e, il y aura Le Grand Guignol, cher André Breton. Il y a les films gore à notre époque.
Ça correspond, oui.
C'est véritablement un besoin du public. Et comment pourrait-on caractériser le théâtre impérial à Rome, justement ?
On a peu de représentants du théâtre impérial, puisque on a conservé que les pièces de Sénèque, hein, en fait. On a en fait pas conservé grand-chose de la production dramaturgique à Rome. Les pièces se sont perdues. Donc on a gardé des comédies de Plaute, de Terence, et puis on a gardé, pour ce qui est du théâtre romain, les tragédies de Sénèque. Alors, on ne sait pas exactement si les tragédies de Sénèque ont été représentées à Rome, dans la Rome antique. On pense que, vu l'éminente position de Sénèque, ce n'est pas forcément évident que ces pièces aient été offertes au public. Plus probablement, ces pièces ont été lues lors de lectures publiques. Il y avait des grandes traditions, on réunissait ses amis, des connaissances. C'était des événements assez mondains, finalement. Et il y avait des lectures publiques, alors certainement avec une certaine gestuelle. Ce qu'on sait... alors, donc on n'est pas du tout sûr que les pièces de Sénèque aient été mises en scène dans des grands théâtres. Mais ce qu'on sait du théâtre romain par ailleurs, c'est que c'était donc des monuments assez grandioses. On en a nous-mêmes quelques exemples en France, le théâtre d'Orange, pour ne citer que lui. Donc c'était des bâtiments assez massifs, extrêmement luxueux, c'est-à-dire que le mur de scène était orné de colonnes de marbre, il y avait une exubérance de mosaïques, de choses très précieuses. Et on sait aussi qu'il y avait un grand goût des Romains pour le spectaculaire. Donc, ils ne se privaient pas d'effets pyrotechniques. Par exemple, quand les spectres apparaissaient, il y avait de la fumée, des torches enflammées. Et puis, ils avaient des dispositifs assez élaborés. notamment des grues qui permettaient de faire voler les acteurs suspendus à des grues. Donc on avait des personnages volants dans la Médée de Sénèque. Elle s'en va à la fin sur un char tiré par des serpents ailés. Et ça, on sait que si ça n'est pas dans la Médée de Sénèque, dans d'autres pièces de théâtre, il y avait ces dispositifs où les héros s'envolaient vers le ciel, etc., des personnages ailés. Il y avait aussi des trappes sous la scène qui permettaient de faire remonter des spectres des enfers. Donc il faut imaginer, là encore, tout le contraire d'un théâtre dépouillé. C'était au contraire des mises en scène extrêmement proliférantes, pleines d'effets spéciaux. Les Romains adoraient les effets spéciaux. Il faut aussi savoir que, comme les jeux étaient souvent représentés donc, dans le cadre de fêtes religieuses, mais c'était payé par des particuliers, c'était payé par des hommes politiques, par des grands généraux, donc qui dépensaient énormément d'argent pour offrir ces jeux au peuple et gagner beaucoup de popularité. J'allais dire, il fallait mettre le paquet pour impressionner le public et rester gravé dans les mémoires. Donc on intégrait à la représentation beaucoup de figurants et beaucoup d'accessoires. On sait par exemple que le grand Pompée, grand général, lorsqu'il a célébré son triomphe, il a fait donner des jeux et on a intégré aux représentations des pièces de butin qui avaient été rapportées par Pompée. Donc l'argenterie, la vaisselle d'or, etc., tout ça a été intégré à la pièce. Alors on peut imaginer donc une mise en scène extrêmement luxueuse, très proliférante, voilà. Alors, pas forcément dans notre goût à nous, hein, on aime parfois un peu de sobriété au théâtre. Les Romains, c'était plus il y en a, plus ça plaît. Il faut que ça brille, il faut que ça soit un peu clinquant, voilà.
Ce public, d'ailleurs, allait jusqu'à apprécier les mises à mort, les spectacles horribles, grâce au jeu du cirque.
Ah oui, mais alors ça, c'était pas dans les théâtres.
Hein. Non, bien
sûr. C'est-à-dire qu'il y avait... Alors, c'était... effectivement, le public adorait voir égorger des pauvres malheureux. Alors, quand ils mettaient longtemps à mourir et qu'ils se battaient bien, c'était encore mieux. Mais on savait que... Et d'ailleurs, Sénèque en a beaucoup parlé... à la pause, lors de ces jeux... mais là, on n'est plus dans les théâtres, hein, on est dans les amphithéâtres. À la pause... pour que les gens qui restaient, qui ne sortaient pas pour manger, ne s'ennuient pas, pour leur offrir quelque chose à voir, on organisait ce qu'on appelait les spectacles de midi, où alors là, on faisait entrer dans l'arène les condamnés à mort à expédier, si je puis dire, et ils arrivaient face à des gladiateurs surentraînés qui les trucidaient à la chaîne, et les gens aimaient beaucoup ce genre de spectacle. Sénèque dit que c'est des spectacles répugnants et que ça avilit les spectateurs. Pour ce qui est du théâtre, on n'a pas de témoignages disant qu'on a tué sur scène de vrais personnages, même si certains polémistes chrétiens qui évidemment s'opposaient au théâtre ont dit par la suite qu'il arrivait qu'on exécute des prisonniers. Je ne crois pas qu'on ait de témoignages fiables à ce sujet-là.
Et alors donc, nous en arrivons à Médée, que Sénèque, évidemment, n'a pas inventé.
Ah non, non, Sénèque n'a pas inventé Médée, le mythe existait bien avant lui, et il y avait même un précédent, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs précédents, mais on a perdu les pièces, mais on a conservé la pièce d'Euripide, le dramaturge grec, et pour l'anecdote, avant Euripide, le mythe de Médée disait que les enfants de Médée avaient été tués par le peuple de Corinthe, avait été lapidé par la foule. Et c'est Euripide qui, désireux d'apporter sa touche personnelle, de réinventer le mythe à sa façon, a inventé l'assassinat des enfants par leur propre mère. C'est une innovation. Et cette innovation a eu tellement de succès qu'elle a fini en fait par s'imposer et par devenir, le mythe véritable, celui qui est vraiment resté gravé dans l'esprit des gens. Et Sénèque, bien évidemment, qui adore les personnages de monstres, a repris, s'est engouffré dans la brèche ouverte par Euripide, a repris la tradition d'une Médée meurtrière de ses enfants, parce que ça faisait d'elle le monstre absolu pour la conscience romaine, bien sûr.
Et tout ça finit à l'opéra, évidemment, avec c'est sous cette forme, d'ailleurs, que certains d'entre nous ont connu. Médée, c'est l'opéra de Cherubini qui a été ressuscité par Maria Callas il y a 50 ou 60 ans. Et contrairement à l'écart entre Euripide et Sénèque, il est tout de même considérable, c'est donc 400 ou 500 ans.
Oui,
c'est un peu comme si un auteur d'aujourd'hui s'inspirait d'une pièce du temps de François Ier pour écrire son théâtre.
Sauf qu'il y avait eu d'autres jalons entre-temps, notamment Ovid, dont malheureusement on a perdu la pièce, mais donc en fait le mythe de Médée n'a pas cessé d'être repris dans des pièces peut-être très inférieures, donc qui n'ont pas été conservées.
Bien, nous allons plonger maintenant dans la tragédie, avec une lecture empruntée à la scène 1 de l'acte 1. Peut-être faut-il avant ça dire un mot de la situation proche.
Alors, je ne vais pas raconter toute l'histoire de Jason et Médée, parce que ce serait un petit peu long, mais pour dire les choses rapidement, Médée, c'est une princesse barbare qui vit en Colchide, dans le royaume de son père Aïétès, qui détient un trésor inestimable, c'est la toison d'or. Un jour arrivent les Argonautes, sur donc un bateau qui passe pour le premier bateau à avoir jamais été construit, l'Argo, donc qui ont violé un territoire jusque-là inaccessible aux hommes, la mer. Les Argonautes arrivent et Médée tombe amoureuse de Jason, leur chef, l'aide à conquérir la toison d'or, je vous passe les détails, et s'enfuit avec lui après avoir trahi son père. Elle assassine son frère pour retarder son père, elle jette les morceaux du corps de son frère à la mer, donc elle a 16 ans quand elle s'enfuit.
Donc le père se croit obligé de les ramasser.
Ben oui, le père est obligé de les ramasser quand même, parce qu'on ne laisse pas un corps sans sépulture. Donc Médée a à peu près 16 ans quand tout ça arrive, donc elle a déjà un fort potentiel meurtrier. On va dire qu'elle a le cœur bien accroché. Elle suit Jason, folle histoire d'amour, ils ont deux enfants. Ils doivent s'exiler à la cour de Corinthe parce que Médée commet un autre crime en assassinant Pélias, l'oncle félon de Jason, qui ne veut pas rendre son trône à son neveu. Donc elle s'en débarrasse, elle le tue, ils sont tout de même exilés et ils se retrouvent à vivre relativement paisiblement à la cour de Corinthe, à la cour du roi Créon de Corinthe, où ils ont deux enfants. Et puis, comme souvent les histoires d'amour finissent mal, au bout de quelques années, Jason se lasse de son épouse et décide d'en épouser une plus jeune. L'histoire est tristement banale. Et Jason donc se fiance et se marie avec la princesse Créuse, la fille du roi Créon. Et Médée reçoit l'ordre de partir en exil. Elle est expulsée. La pièce s'ouvre en fait sur un chant de mariage qui est chanté en l'honneur des jeunes époux par les habitants de Corinthe qui dans la pièce sont présentés comme constamment hostiles à Médée, traités de sorcières, de femmes abominables. Donc le premier passage, c'est au moment où Médée entend l'écho des chants de mariage et constate qu'elle est définitivement abandonnée.
Je suis morte. Les chants du mariage ont frappé mes oreilles. Je n'arrive pas à le croire, non. Je n'arrive toujours pas à croire en un si grand malheur. Jason a donc osé. Après m'avoir enlevé à mon père, à ma patrie, à mon royaume, il a eu la cruauté de m'abandonner. De me laisser seule sur une terre étrangère, il a osé mépriser ce que j'ai fait pour lui. Après m'avoir vue triompher par le crime des flammes et des flots. Est-il à ce point convaincu que c'est entièrement consumé mon pouvoir de nuisance ? Indécise, insensée et l'esprit égaré, je me laisse emporter de tous côtés. Où pourrais-je trouver moyen de me venger? Si seulement Jason avait un frère, mais il a une épouse. C'est contre elle qu'il me faut diriger mon poignard. Cela suffit-il à me payer de mon malheur? S'il est vil des Grecs, si les villes barbares ont été témoins d'un forfait que tes mains n'aient pas commis, ce forfait, c'est maintenant qu'il faut le commettre. Que tes crimes passés t'y exhortent, qu'ils te reviennent tous à l'esprit, le vol de la fameuse toison qui faisait la gloire de mon royaume, le meurtre de mon jeune frère qui m'avait accompagné, moi, la vierge criminelle, je l'ai mis en pièces avec mon épée. J'ai jeté son cadavre à mon père. J'ai éparpillé sur les flots les morceaux de son corps. la mort du vieux Pélias démembré, mis à cuire dans un chaudron de bronze. Que de victimes j'ai saigné à mort, sans qu'aucun de ces sacrilèges m'ait été inspiré par la colère. C'est mon amour qui s'est déchaîné pour devenir dévastateur. Mais que pouvait faire Jason, soumis comme il l'était au pouvoir et à la loi d'autrui? Il aurait dû offrir sa poitrine au cou. Oh, ma douleur furieuse, modère tes propos. Oui, modère-les. S'il le peut, que Jason vive en restant mon mari comme autrefois. Sinon, qu'il reste en vie malgré tout et conserve en mémoire de nous le souvenir de ce que j'ai fait pour lui. Tout cela, c'est la faute de Créon, qui abuse de son pouvoir pour briser notre union, pour arracher une mère à ses enfants et rompre un lien de fidélité que ses gages d'amour avaient encore plus étroitement resserré. Qu'il soit ma seule cible et reçoive le châtiment qu'il mérite, je réduirai son palais en cendres. Le noir tourbillon soulevé par les flammes sera visible jusqu'au promontoire de Malais, qui contraint les navires à faire de longs détours.
C'est très beau, monologue. Oui, on peut expliquer l'allusion, bien sûr, à ce malheureux roi, oui.
Roi, alors, oui. Le meurtre du roi Pélias, je ne voulais pas entrer dans les détails, mais si, quand même, il va falloir.
C'est pittoresque, pardon.
C'est oui. Assez pittoresque. En fait, Médée veut assassiner le roi Pélias, qui est donc l'usurpateur du trône d'Iolcos, le royaume qui devait revenir à Jason. Et pour tuer Pélias, elle décide d'utiliser la bêtise de ses filles. Pélias a des filles, donc, que Médée va manipuler en leur faisant croire qu'elle sait comment rajeunir leur père. Et pour rajeunir leur père, elle arrive à les persuader de l'égorger, de le vider de son sang et de le mettre à cuire dans un grand chaudron plein d'une potion magique. Alors, elle se livre auparavant à une démonstration avec un vieux bélier qu'elle égorge, qu'elle trempe dans un chaudron. Il en ressort un jeune agneau, donc les filles de Pélias. Alors, on peut imaginer que Médée, c'était une sorte d'illusionniste, en fait. Moi, je la vois un petit peu comme ça. Hein. Si on voulait rationaliser le mythe, vous savez, c'est ces illusionnistes qui arrivent à faire prendre des vessies pour des lanternes. Et donc, les filles de Pélias sont tellement naïves et tellement bêtes qu'elles vont pratiquer l'opération sur leur père. Bien sûr, l'opération échoue et les filles de Pélias se suicident d'horreur, constatant ce qu'elles ont pu faire. Donc, vous voyez que la trajectoire de Médée est vraiment semée de morts abominables et c'est une trajectoire catastrophique.
Au début, donc, on sent Médée hésitante sur la solution à emprunter. Le spectateur ne sait pas encore, bien entendu, quelle décision elle va prendre, ni ce qu'elle va faire. Et d'ailleurs, bien sûr, cette pièce n'est pas qu'un monologue. Il y a d'autres personnages que nous verrons évoquer un peu plus loin dans la prochaine lecture. Est-ce que vous pouvez évoquer pour nous les personnages de la pièce?
Oui, bien sûr. Alors, d'abord, ce que vous avez dit est très juste, c'est-à-dire que tout l'intérêt de cette pièce, c'est que dès le départ, donc juste après à la suite de ce monologue, Médée dit « Je veux me venger, je veux commettre un acte absolument monstrueux. Je ne sais pas encore lequel, je ne sais pas, il faut que je cherche. » Mais j'ai décidé que j'allais commettre l'acte le plus immonde, le plus monstrueux qui puisse se commettre. Tout le monde s'en souviendra. Pour l'éternité, on se souviendra de moi parce que je vais devenir un monstre. Et en fait, pendant toute la pièce, elle cherche. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et ça n'est qu'à la toute fin, pratiquement, qu'elle prend la décision. On lira ce passage, justement. Qu'elle a cette espèce de révélation. Mais bien sûr, je vais tuer mes enfants. On ne peut pas faire mieux pour être un monstre. Alors, les autres personnages, en fait, ce sont... la pièce est faite de la confrontation successive de Médée avec essentiellement donc trois personnages, sa nourrice qui essaye de la calmer sans arrêt, qui lui dit « Mon enfant, il faut te résoudre à ton malheur, etc. » Et Médée, c'est tout le contraire, elle dit « Non, au contraire, je ne vais pas me résoudre. Et même chaque fois que je sens que ma douleur s'apaise et que je me calme, je vais réactiver cette fureur parce qu'il n'y a que comme ça que je vais pouvoir devenir un monstre. » Donc tous ceux qui lui donnent le conseil de s'apaiser, de se calmer, elle les rejette en disant non, au contraire, il faut que je sois furieuse, il n'y a que comme ça que je vais pouvoir atteindre cette monstruosité que j'appelle de mes voeux. Ensuite, il y a le personnage de Jason, on va lire aussi un extrait de cette confrontation, c'est son mari, et il est présenté vraiment dans la pièce comme une sorte de raté, de anti-héros. Jason, c'est celui qui n'est devenu un héros que parce que Médée l'a aidé, en fait. Il a triomphé des épreuves parce qu'elle était là pour chaque fois lui donner la solution, la faire bénéficier de ses pouvoirs magiques. Et il est d'autant plus présenté comme un lâche dans cette pièce que Sénèque choisit d'inscrire la pièce dans un contexte géopolitique très précis. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on comprend que pendant des années, Jason et Médée ont vécu à la cour de Créon sans qu'il y ait aucun problème. Créon les avait accueillis. Mais le fils de Pélias, Acaste, qui a pris le pouvoir à Iolcos, décide qu'il est temps de ne pas laisser impunis les assassins de son père. Et il demande au roi Créon de lui livrer Jason et Médée. Il lui dit, voilà, il y a une tractation diplomatique, tu me les rends ou je te déclare la guerre. Et Créon, pour avoir la paix, et pour sauver aussi Jason qu'il estime, décide de tenter une manœuvre pour apaiser Acaste. Il va exiler Médée. Il ordonne que Médée parte en exil en se disant « ça va calmer Acaste et me valoir la paix ». Et puis, pour garantir la sécurité de Jason, il le marie à la princesse Créuse. Donc il y a une espèce de stratégie mise en place par Jason et Créon pour sauver la peau de Jason, en quelque sorte. Et pour sauver la peau de Jason, on sacrifie Médée, tout simplement. On l'éjecte, on la répudie et on la chasse du royaume. Donc ça donne vraiment une dynamique très particulière, assez cynique à la pièce, parce que Médée, c'est un monstre, mais c'est vraiment aussi la victime de stratégies de deux mâles qui veulent éviter la guerre, parce que ce sont des lâches, en quelque sorte. Voilà. Et puis, il y a aussi le roi Créon, donc le roi Créon, qui est présenté comme une sorte d'archétype du souverain orgueilleux, aux yeux et totalement implacable, qui la congédie vraiment sans aucune considération, mais que Médée, qui est rusée, qui est maligne, qui est infiniment intelligente, va réussir à manipuler pour lui demander un délai de 24 heures. Et 24 heures seront suffisantes, évidemment, pour qu'elle mette en œuvre ses sortilèges et qu'elle assassine toute la famille royale.
Nous en venons donc à notre deuxième lecture. On va approfondir notre connaissance des personnages. C'est la scène 2 de l'acte 2.
Donc c'est la confrontation ici de Médée et de Jason. Jason qui lui dit « Mais pars, je t'en conjure » et Médée qui lui dit « Eh, quand même, j'ai fait des choses pour toi, il serait temps de t'en souvenir. »
Pour toi, j'ai renoncé à ma patrie. Pour toi, j'ai renoncé à mon père, à mon frère, à mon honneur. Voilà la dot qu'il m'a fallu payer pour t'épouser. Puisqu'on m'oblige à fuir, rends-moi ce qui m'appartient. Jason, alors que dans sa haine, Créon désirait te faire exécuter, il s'est laissé fléchir par mes larmes et t'a accordé de partir en exil. Je pensais qu'il s'agissait d'un châtiment, mais cet exil est une faveur à ce que je vois. Tant que tu as la possibilité de le faire, prends la fuite, arrache-toi à ces lieux. La colère des rois est toujours violente. En me donnant ce conseil, tu arranges bien Créuse. Tu la débarrasses d'une rivale qu'elle déteste. Toi, Médée, m'accuser d'aimer et aussi d'être un traître, un assassin. Quels sont donc les forfaits dont tu peux m'accuser ? Tous ceux que j'ai commis. Tu me rends également responsable de tes crimes. Il ne manquait plus que ça. Ces crimes sont les tiens. Oui, les tiens! Le coupable, c'est celui à qui profite le crime. Tous les autres peuvent bien m'accuser, moi, ton épouse, et me traiter d'infâme. Toi seul as le devoir de me défendre. Toi seul a le devoir de clamer mon innocence. Tu dois considérer comme innocent quiconque a, pour l'amour de toi, perdu son innocence. Jason, la vie est insupportable lorsqu'on rougit de la devoir à quelqu'un Il ne faut pas la conserver, sinon rougit de la devoir à quelqu'un. Domine plutôt la colère qui t'agite, calme-toi dans l'intérêt des enfants. Je les renie, je les refuse, je les rejette. Comment pourraient-ils rester mes enfants, alors que Créuse va leur donner des frères? C'est le cadeau d'une reine à des fils d'exilés, d'une femme puissante à des affligés. Puissent ces malheureux ne jamais connaître un jour si terrible, qui verrait se mêler illustres lignées et lignées infâmes, descendants de Phébus et descendants de Sisyphe. Pourquoi donc, malheureuse, cherches-tu à nous entraîner tous deux dans l'exil? Pars, je t'en conjure. À présent, très haut Jupiter, fais tonner le ciel tout entier. Lève la main droite, prépare tes feux vengeurs, fracasse les nuages pour ébranler le monde. Et au moment où ta main lancera l'éclair, qu'elle ne cherche pas à faire de distinction entre moi et ce traître, quel que soit de nous deux celui qui tombera, c'est un coupable qui périra. Ta foudre contre nous ne peut faire fausse route. Jason, reviens à la maison, adoucis tes propos. S'il y a dans le palais de mon beau-père quelque chose qui puisse t'apporter dans ton exil soulagement et consolation, demande-le-moi. Je ne fais aucun cas du luxe princier, et comme tu le sais, je peux m'en passer, c'est d'ailleurs mon habitude. Je demande seulement qu'on laisse mes enfants m'accompagner dans mon exil, afin de pouvoir les serrer contre moi quand je laisserai se répandre mes larmes. Toi, il te reste l'espoir d'avoir d'autres enfants. Jason, je voudrais bien céder à tes prières, je l'avoue, mais mon amour paternel m'en empêche, je ne saurais supporter une chose pareille. Quand bien même celui qui est à la fois mon roi et mon beau-père me l'ordonnerait en personne, mes enfants sont ma raison de vivre, ce sont eux qui soulagent les tourments qui me brûlent le cœur. Plutôt mourir, me retrouver mutilé, aveuglé. Il aime à ce point ses enfants. C'est bon, je le tiens. Il m'a révélé le point faible où frapper.
C'est donc ce nous-là. Juste avant, il y a une solution qui est bien connue, confier à la mère la garde des enfants. Celle-là, est refusée à m'aider.
Voilà, alors c'est d'ailleurs assez intéressant parce que il y a ici une situation différente de chez Euripide. Chez Euripide, Médée était exilée avec ses enfants et c'était parce qu'elle ne supportait pas l'idée qu'on fasse vivre à ses enfants cette vie de déclassée, d'exilée, que Médée les tuait parce qu'elle considérait, elle savait que ses enfants étaient définitivement déchus et que cette vie, elle n'arrivait pas à supporter cette perspective pour eux. Sénèque inverse complètement la perspective. Et c'est Jason qui veut garder les enfants avec lui, et Médée ne supporte pas de laisser les enfants à leur père. Et quelque part, elle va les tuer parce qu'elle ne veut pas, elle veut les garder toutes pour elle. Et comme on les lui refuse, elle préfère les tuer plutôt que de laisser Jason en jouir. C'est vraiment comme un bien qu'elle refuse de laisser à son époux. Donc il y a une inversion des perspectives qui met aussi Médée dans une situation encore plus monstrueuse, parce que finalement, les enfants auraient pu rester, avoir un destin princier, d'ailleurs c'est ce que fait valoir Jason, hein. Ils seront élevés comme des enfants royaux, etc. Mais Médée ne veut pas laisser cette perspective à ses enfants, parce qu'elle veut punir son mari. Donc c'est pour ça aussi qu'elle les tue.
Et elle comprend qu'elle peut le punir d'autant mieux qu'il aime ses enfants, ce qu'au fond elle ne soupçonnait peut-être pas.
Mais bien sûr, hein, l'amour paternel, c'était pas quelque chose de forcément évident. Enfin, si, c'était quand même quelque chose d'important dans la mesure où ce sont des fils et que s'il n'y a pas d'amour au sens d'amour-affection, il y a au moins la fierté d'avoir un descendant à qui on va transmettre son nom et son culte familial. Mais néanmoins, là, Jason se met totalement à nu et laisse mesurer à sa femme effectivement l'étendue de son amour paternel, et c'est pour ça qu'elle dit « je le tiens, ça y est, je connais le point faible où frapper ». Alors curieusement, c'est suivi d'une amnésie comme si la pensée de l'infanticide était encore trop violente pour pouvoir être consciemment formulée. Et la révélation proprement dite ne viendra que plus tard dans la pièce. Elle oublie qu'elle le tient, son mari, et elle continue à chercher comment le punir.
Alors il y a un cœur, évidemment, qui s'ouvre par ces vers qui n'ont pas perdu de leur actualité, d'ailleurs. Ni le feu, ni le vent lorsqu'il forcit, ni le trait qu'on lance ne sont aussi redoutables de leur violence qu'une épouse répudiée. Et donc le cœur commente l'action, comme toujours. Oui. Mais ce sont des cœurs assez longs, et qui évidemment a été chanté, le cœur de la scène 3, et plusieurs pages de notre édition. Alors, et on arrive donc à l'acte 3. Et alors là, vous avez prévu, je pense, d'évoquer la situation politique.
Bah, la situation politique, je l'ai un petit peu évoquée tout à l'heure. Pardon, on n'a pas respecté exactement la feuille de route. Mais donc j'avais dit qu'il y a une inscription vraiment dans un contexte géopolitique. Donc la répudiation de Médée, c'est vraiment le fruit de transactions entre Acaste, le roi d'Iolcos, et Jason et Créon, qui font leur petite cuisine pour savoir comment sauver la peau de Jason, pour dire les choses de façon un peu triviale. Mais puisqu'on a déjà évoqué ça, je vais juste en profiter pour dire deux mots sur le cœur, qui a vraiment une importance très intéressante dans la Médée de Sénèque. C'est que donc le cœur, c'est le porte-parole des habitants de Corinthe, constamment hostiles à Médée. Mais le cœur évoque tout de même autre chose qui a son importance dans l'évaluation morale des personnages. C'est la navigation des Argonautes. Et le cœur présente cette navigation dans la Médée de Sénèque comme un acte de transgression monstrueux qui a par lequel l'homme est allé sur la mer alors que c'est un domaine qui théoriquement lui était fermé. Et navigation d'autant plus monstrueuse qu'elle a mis en contact le monde civilisé des Grecs avec le monde des barbares auquel appartient Médée et qu'elle a ramené chez les Grecs la sorcière Médée. Et donc, tous les Argonautes sont présentés comme des hommes transgressifs qui ont violé les règles établies par les dieux au début du monde. Donc, ils sont coupables de quelque chose. Et ils sont coupables, donc ils doivent être punis. Et donc, le cœur énumère le destin de tout un tas d'Argonautes qui sont morts dans des circonstances dramatiques en disant « c'est la vengeance des dieux, parce que ce voyage, c'était un sacrilège ». Et le cœur dit « eh bien, puisqu'il y a eu sacrilège, le chef des Argonautes, Jason, lui aussi, quelque chose est suspendu au-dessus de la tête. Il y a une menace. On prie pour le salut de Jason, on prie pour qu'il ne soit pas puni de la transgression qu'il a commise, mais néanmoins, on sait, nous, que ça va arriver, que c'est Médée qui va s'en charger. » Et du coup, ça inverse complètement la perspective morale de la pièce. Médée est un monstre, elle tue ses enfants, c'est une criminelle, certes, mais quelque part, elle s'inscrit aussi dans un projet divin qui est « on va punir Jason parce que c'est lui qui a monté l'expédition des Argonautes ». Et donc le paradoxe, c'est que Médée, c'est une sorcière, c'est un monstre, et qu'en même temps, c'est un agent de la puissance divine. Elle participe d'une sorte de régulation morale du monde. Elle va punir le transgresseur, elle va punir Jason. Donc c'est un monstre qui est aussi un agent de justice divine. Et c'est ça aussi le paradoxe dans la pièce de Sénèque.
Il faut dire d'ailleurs qu'elle a une famille un peu spéciale, puisqu'elle est petite fille du soleil, et parente d'Hécate, déesse de la
mort. Médée, par sa généalogie, elle appartient en fait à la fois au monde solaire, elle est petite fille du soleil, donc au monde des dieux d'en haut, mais elle est aussi cousine de la déesse Hécate, qui est une déesse infernale, patronne des magiciennes. Donc Médée, elle se rattache vraiment aux deux extrémités du monde, hein, ses profondeurs souterraines et noires, obscures, c'est vraiment les forces obscures, et elle appartient aussi au monde lumineux du soleil. Donc c'est un être de paradoxe.
Et alors nous en arrivons, après ce très beau cœur que je ne lirai pas, et après l'épouvante qui éprouve la nourrice, qui s'aperçoit que elle ne peut absolument rien faire pour calmer Médée. Nous en arrivons à la scène 2 de l'acte 3.
Alors, en fait, juste pour situer ici le contexte, c'est que donc Médée ne sait pas encore qu'elle va tuer ses enfants, mais elle sait très bien qu'elle va se débarrasser de sa rivale et du roi. Donc elle a décidé de les assassiner. Comment les assassiner? En offrant en cadeau de mariage à la jeune mariée une robe empoisonnée, donc imprégnée d'un filtre, et des bijoux eux-mêmes imprégnés d'un filtre nocif qui vont embraser, qui vont transformer la jeune mariée en torche vivante. Et donc, l'extrait qu'on va lire, que va dire Marie, c'est la préparation, c'est l'opération de sorcellerie qui va communiquer ses pouvoirs magiques à la robe et aux bijoux en or.
C'est pour toi que j'offre au sacrifice solennel en arrosant de sang un tertre de gazon. C'est pour toi que s'élève dans la nuit la flamme d'une torche que je suis allée voler dans un tombeau. C'est pour toi que, secouant la tête et ployant le cou, j'ai hurlé. C'est pour toi que j'ai ceint d'un long ruban mes longs cheveux dénoués comme pour une des funérailles. C'est pour toi que j'agite le lugubre rameau que j'ai trempé dans l'eau du Styx. C'est pour toi que la poitrine dénudée, telle une ménade, je vais me taillader les bras de mon couteau sacré. Que mon sang se répande sur les autels. Habitue-toi, ma main, à dégainer le fer et à supporter de faire couler un sang qui m'est cher. Je viens d'offrir en libation la liqueur jaillie de mon corps transpercé. Si tu te plains d'être trop souvent invoqué dans mes prières, pardonne-moi, je t'en prie, si j'invoque aussi souvent ton arc, fille de Persès. C'est pour une seule et même raison. Jason, toi, maintenant, imprègne la robe que je m'apprête à offrir à Créuse, afin que dès qu'elle l'aura revêtue, la flamme serpente jusqu'à la moelle de ses os et la dévore. Dans l'or jaune éclatant se trouve enfermé, bien caché, invisible, le feu, volé au ciel par Prométhée, condamné à voir ses entrailles renaître sans cesse en expiation de ce larcin. Il m'en a fait cadeau et m'a montré comment dissimuler habilement la force. Mucibère aussi m'a donné des feux couverts d'un peu de soufre. Et j'ai pris à Phaéton, mon parent, des éclairs dont la flamme est toujours vivace. Je possède un feu que m'a offert la chimère. Je possède des flammes dérobées au gosier brûlant du toréo de Colchide, à qui j'ai imposé, en les mêlant au venin de Méduse, de conserver intacts et secrets leurs pouvoirs maléfiques. Ajoute à ces poisons ta force stimulante, Hécate. Et dans ces cadeaux que je m'apprête à offrir, maintiens cachées les étincelles de feu. Qu'elles trompent les regards, qu'elles se laissent toucher, mais que leur chaleur pénètre la poitrine et les veines, qu'elles liquéfient les membres et fassent partir les os enfumés. Qu'en s'embrasant, la chevelure de la jeune mariée éclipse la lumière de cette torche nuptiale.
Le silence qui suit Médée, c'est encore du Médée. Hein, c'est...
Le style est admirable, d'ailleurs, il faut le dire. Il n'a absolument rien perdu de sa force. Il n'y a pas un mot de trop dans la violence. Il y a, c'est vraiment une perfection du mot juste. Chacun des vers latins, que vous avez d'ailleurs excellemment rendu. Mais quand on regarde le texte latin, même si on ne le mine plus tout à fait, la prose latine comme autrefois, on est frappé par l'extraordinaire puissance de ce style. En très peu de mots, il y a une violence extraordinaire. Chaque mot est explosif, finalement. Et alors donc, la décision est prise. Première vengeance contre l'épouse de Jason et contre son père.
Et contre son père, puisqu'en fait, le père, en essayant de sauver la fille, va s'embraser lui aussi. Hein. Chez Euripide, on a une description qui est de cette scène qui est absolument formidable. Je suis d'ailleurs assez étonnée que Sénèque ne l'ait pas reprise en détail, parce que Euripide explique que le père se jette sur sa fille pour essayer de lui arracher la robe, mais la robe reste collée, donc il y a les lambeaux de chair qui sont... Et le père se soude à sa fille et ils se transforment tous les deux en torches embrasées. J'aurais bien aimé avoir les vers de Sénèque décrivant cette scène, mais il n'y fait allusion que de façon relativement brève.
Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien,
la ville est incendiée.
En fait, la mort de la princesse, donc les enfants portent, elle est quand même perverse, puisque elle sait qu'on se méfie d'elle, donc elle utilise ses enfants pour aller offrir les cadeaux à la princesse. Puisque ses enfants, c'est symbole d'innocence, elle sait qu'on ne se méfiera pas d'eux, donc elle dit, on se méfie de moi, je vais utiliser pour porter ces cadeaux ceux dont personne ne se méfiera. Donc c'est aussi une manipulatrice assez perverse. Hein. Donc elle remet les cadeaux aux deux enfants. La princesse, qui est chez Euripide présentée comme une petite vaniteuse, revêt la robe, se pavane devant son miroir, prend feu. Le père prend feu et le palais prend feu et la ville est menacée par l'incendie. Et on a une scène où la nourrice dit à Médée pars, on va te chercher, on va se saisir de toi puisque c'est toi la responsable. Et Médée dit jamais, je ne pars pas, je veux jouir du spectacle. Donc Médée, c'est vraiment, il y a cette dimension réflexive dans la pièce. C'est quelqu'un qui a conscience que l'horreur de ses crimes va faire d'elle un personnage, quelqu'un dont on va parler par la suite. Et elle organise véritablement son crime comme un spectacle. Elle le met en scène, on va le voir aussi pour le meurtre des enfants. Elle veut que tout soit parfait, que le spectacle soit digne de sa réputation. Et c'est à la fois elle qui offre le spectacle et qui y assiste, elle en jouit en tant que spectatrice. Donc elle dit à la nourrice, même si j'étais partie, je reviendrai rien que pour jouir de ce spectacle. Et donc la nourrice essaye de la dissuader et de continuer. Mais Médée dit non, ça n'est que le début. Je vais continuer sur ma lancée. Et je crois que c'est le passage qu'on va pouvoir lire maintenant.
À présent, je suis Médée. Mon génie du mal s'est accru. Je me réjouis. Oui, je me réjouis d'avoir décapité mon frère. Je me réjouis de l'avoir amputé de ses membres et d'avoir dépouillé mon père de la toison sacrée qu'il protégeait si bien. Je me réjouis d'avoir causé la mort du vieux Pélias en armant le bras de ses filles. Cherche comment t'exprimer ma douleur. Quel que soit le crime entrepris, ta main ne sera pas celle d'une novice. Où t'élances-tu donc, ma colère? Et quelles armes brandis-tu contre ton perfide ennemi? Je ne sais ce que mon esprit farouche a décidé en son fort intérieur. Il n'ose encore se l'avouer. J'ai été stupide! Je suis allée trop vite! Si seulement mon ennemi avait eu des enfants de ma rivale. Les enfants que Jason t'a donnés. C'est comme si Créuse les avait mis au monde. Voici le genre de châtiment que j'ai décidé. Et que j'ai décidé à bon droit. Pour mettre en œuvre mon crime ultime, je vais devoir faire preuve d'un grand courage. Enfant, qui jadis étayaient mes enfants. C'est à vous de payer pour les crimes de votre père. L'horreur m'a frappé le cœur, mon corps se fige glacé, ma poitrine tressaille. La colère s'est retirée. Et c'est la mère en moi qui revient tout entière après avoir chassé l'épouse. Moi, répandre le sang de mes enfants, de ma descendance. Ah, trouve mes affaires, ma folie furieuse. Loin de moi cette transgression inouïe, cet affreux sacrilège. Quel crime ces pauvres petits pourraient-ils bien avoir à expier? Leur crime, c'est Jason, leur père, et crime encore plus grand, Médée, leur mère, qu'ils meurent, ils ne sont pas à moi, qu'ils paient.
On peut noter d'ailleurs le goût baroque des oppositions très violentes. Ici, c'est pas à moi, ils sont pas à moi, qu'ils meurent, qu'ils périssent.
Mais en fait, c'est à la fois une opposition et une terrible complémentarité. C'est-à-dire que ce que dit Médée, c'est que ces enfants méritent de mourir parce que ce sont les enfants de Jason qui est un criminel et qui l'a fait souffrir. Mais ils méritent aussi de mourir parce qu'ils sont ses enfants à elle, qui est elle-même une criminelle, une meurtrière abominable. Donc en fait, ces enfants s'inscrivent dans une sorte de double généalogie monstrueuse qui les condamne immanquablement. Il y a quelque chose d'absolument inexorable. Alors, ce qui est assez intéressant aussi dans cette pièce, c'est que finalement, Médée tue ses enfants pour une double raison, parce qu'ils lui appartiennent à elle, mais aussi parce que elle considère qu'ils ne sont plus véritablement à elle. Elle le dit plusieurs fois, elle dit « puisque Jason va se marier avec Créuse, puisque les enfants vont rester avec ce nouveau couple, c'est comme si les enfants devenaient les enfants de Créuse. » Et donc, elle se dépossède aussi de ses enfants, qui deviennent de fait ceux de la princesse. Et c'est aussi à ce titre qu'elle va les faire mourir. Donc, en fait, Sénèque construit une sorte de schéma extrêmement complexe, et par quelques bouts qu'on attaque la question, on aboutit toujours à la même conclusion, les enfants doivent mourir. C'est vraiment une sorte de machine infernale qui se monte sous les yeux du spectateur et qui conduit immanquablement au dénouement fatal.
Alors naturellement, Sénèque est un auteur trop fin pour ne pas montrer des hésitations, des fluctuations. Le spectateur espère toujours que les choses vont s'arranger.
Je pense pas que le spectateur ait beaucoup d'espoir, mais bon...
Et au moment, il y a un moment touchant où Médée enlace ses enfants, où elle redevient une mère normale, et puis elle est reprise par sa folie de manière tout à fait étonnante. Et un énorme serpent siffle et se tord. Il y a des expressions extraordinaires. C'est aussi violent que Racine.
Oui,
ça ressemble beaucoup.
Bien sûr. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, certes, elle a des hésitations, mais enfin, ça dure assez peu. Et c'est surtout que, elle sait qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de courage pour commettre ce double crime. Et pour avoir du courage, elle sait qu'il faut qu'elle soit en état de transe furieuse. Donc, elle appelle les furies. Elle les convoque et elle s'abandonne complètement aux furies. Donc, il y a une scène où les furies arrivent sur scène et où Médée leur dit « Approchez, approchez, brûlez-moi, enfoncez-moi vos torches dans les yeux, brûlez-moi tout entière. » Les furies la brûlent et une fois que Médée est devenue elle-même une furie totalement brûlante de colère, elle dit aux furies « Vous pouvez retourner aux enfers, c'est bon, je suis prête. » Et c'est là qu'elle commet son crime.
Et alors nous arrivons à la scène finale, bien sûr. Pouvez-vous nous expliquer comment se termine la pièce ?
Alors, ce qu'il y a d'assez...
C'est trop d'ailleurs, une partie de la scène 3.
On va lire justement les derniers vers, Marie lira les derniers vers, mais ce qu'il y a d'intéressant dans l'assassinat des enfants, je disais tout à l'heure que Médée se met en scène en tant que meurtrière, et donc l'assassinat des enfants est très étiré dans le temps, c'est-à-dire qu'elle les tue en deux fois. Elle en tue d'abord un, et puis, elle se rend presque compte qu'elle est allée trop vite parce qu'elle l'a tué en l'absence de Jason. Elle dit, mais pour que ma vengeance soit totale, il faut vraiment que tout le monde me voie. Il faut que je sois bien visible de tous pour que les gens m'approuvent. Elle veut que le peuple de Corinthe approuve son geste. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ramasse le cadavre de l'enfant qu'elle vient de tuer. Elle prend l'autre par la main. On peut imaginer dans quel état psychologique est le petit frère. Et elle monte sur le toit de la maison, à la fois pour échapper aux gens qui la cherchent, mais surtout pour être visible. Elle dit que le peuple approuve mon geste. Et ce qu'il y a ici de très pervers de la part de Sénèque, c'est que, en fait, qui est-ce qu'il y a en face de Médée ? Il y a un parterre de gens assis qui sont les spectateurs de la pièce. Et donc, que font les spectateurs traditionnellement à la fin d'une pièce ? Ils applaudissent. Et Sénèque, du coup, détourne complètement le sens des applaudissements qui sont censés suivre la représentation. Le spectateur devient, malgré lui, complice du crime de Médée, puisque c'est son approbation qu'elle sollicite et c'est son approbation qu'il va lui apporter en quelque sorte en applaudissant une fois que l'enfant aura été tué. Donc il y a vraiment une dimension réflexive, je dirais perverse, mais en même temps très fine, enfin très maligne de la part de Sénèque, c'est que le spectateur est embarqué dans l'histoire. C'est aussi à cause de lui, à cause de sa présence, que l'héroïne sur scène commet le meurtre. Et donc le passage qu'on va lire à la fin, donc c'est le passage où Médée est là avec le cadavre de l'enfant, l'autre terrorisé par la main, et qu'elle attend et que Jason arrive. Et maintenant que Jason est là, Médée va pouvoir véritablement jouir de son crime, puisqu'elle va pouvoir tuer le deuxième enfant sous les yeux de son père.
Jason, par tous les dieux, par l'exil que nous avons partagé, par notre mariage, dont c'est bien malgré moi que j'ai violé les lois, épargne notre enfant, désormais. Si quelqu'un est coupable de quelque chose, c'est moi. Je me livre à la mort. Sacrifie-moi. C'est moi le criminel. C'est là où tu veux. C'est là où tu ne veux pas que j'aille. C'est là où cela te fait mal que je vais enfoncer mon épée. Va donc à présent, orgueilleux. Va convoiter Lélie de jeune fille. Abandonne celle que tu as rendue mère. Jason, un seul enfant, c'est une vengeance suffisante. Si ma main pouvait se contenter d'un seul meurtre, elle n'aurait tué aucun des deux. Même si je les tue tous les deux, c'est un nombre encore insuffisant pour apaiser ma douleur. Si la mère que je suis cache encore en elle quoi que ce soit qui puisse témoigner de son amour, je fouillerai mes entrailles avec mon épée et je l'extirperai du tranchant de ma lame. Jason, va maintenant jusqu'au bout du crime que tu as entrepris. Accorde-moi au moins, je t'en supplie, de ne pas prolonger plus longtemps ce crime et ce supplice que j'endure. Jouis de la lenteur avec laquelle tu perpètres ton crime. Ne te presse pas, ma douleur. J'ai la journée pour moi. Je profite du temps qui m'a été accordé. Jason, puisque tu t'acharnes, tue-moi. Tu me demandes de te prendre en pitié. C'est bien, ma vengeance est totale. Ma douleur, je ne pouvais t'offrir plus complet sacrifice.
Elle tue son enfant. Un char volant vient se poser sur le toit.
Toi, Jason, toi, l'ingrat, lève donc jusqu'ici tes yeux, bouffi de larmes. Reconnais-tu ton épouse? C'est ainsi que je m'enfuis d'habitude. Par la voie des airs, deux serpents écailleux viennent soumettre leur cou à un double joug.
Elle fait tomber du toit le cadavre des enfants.
Reprends donc ces enfants à présent, puisque tu es leur père. Moi, je m'en vais emporter dans les airs sur mon char, volant. Jason, va donc parcourir les hautes sphères de l'éther et témoigne partout sur ton passage que les dieux n'existent pas.
Incroyable fin, évidemment. Est-ce que les dieux n'existent pas pour Sénèque ?
Non, Sénèque est stoïcien, donc Dieu est partout, au contraire, Dieu existe et il est partout répandu dans le monde. Et c'est ça qui est vraiment très étonnant, c'est que, enfin, c'est pas étonnant, ça s'explique, mais donc il fait énoncer à Jason cette vraiment très étonnante profession d'athéisme, parce que justement, Jason ne peut pas concevoir un monde où la présence de Médée soit possible si les dieux existent. Médée lui semble justement un être totalement inconcevable dans un monde régi par la providence divine telle que les stoïciens la conçoivent. On a vu qu'en fait, dans la perspective de Sénèque, comme Médée est aussi une justicière, malgré tous ses crimes, elle s'inscrit dans l'ordre paradoxal du monde. Mais je pense que cette profession d'athéisme de profession de foi d'athéisme énoncé par Jason, ça dit vraiment l'incompréhension absolue, le côté totalement révolté du personnage de Jason qui ne peut plus admettre que les dieux existent après avoir subi ce qu'il a subi.
Et alors, vous avez une conception particulière, d'ailleurs, du personnage de Médée, de son destin, en quelque sorte ultérieur. Vous la dépeignez dans votre préface comme rejoignant le monde des dieux.
Mais son ascension finale laisse entendre qu'elle rejoint le monde des dieux, puisque au début de la pièce, elle demande à son ancêtre le soleil d'arrêter son char. Elle s'adresse à son ancêtre et puis rien ne se passe, le soleil continue sa course dans le ciel. Mais ce char qui arrive à la fin, c'est bien les dieux qui l'envoient. Hein. C'est un char qui vient d'en haut, il ne vient pas d'en bas, il ne sort pas de la terre. Donc elle s'envole vers le ciel, donc vers les astres, là où vivent les dieux. Donc elle rejoint l'ordre des dieux et c'est ça, c'est vraiment ça qui est scandaleux dans le personnage, c'est que Médée s'intègre malgré tout à l'ordre du monde, malgré tous les ravages qu'elle produit. Elle est déjà divine de par ses origines, mais sa divinité semble totalement confirmée par son apothéose et son élévation vers les astres. Donc Sénèque l'inscrit dans l'ordre du monde et il y a vraiment un côté ricanant chez le dramaturge ici, hein, tout comme il a pris en otage les spectateurs à ce moment-là. Médée est un monstre absolu, elle est hors de l'humanité, et pourtant elle participe de l'ordre voulu par les dieux. Et c'est ça, en fait, qui déstabilise dans sa monstruosité. C'est que c'est une monstruosité qui répond malgré tout à une nécessité, la nécessité du châtiment des transgresseurs que sont les Argonautes.
Est-ce qu'on rejoint là la pensée grecque, comme celle d'Eschyle, par exemple, de la trilogie d'Agamemnon, les Coéphores et les Euménides, qui est déjà une tragédie de la vengeance?
Tout à fait, mais vous touchez vraiment un point important, c'est que dans la mythologie gréco-romaine, le monstre, qui est souvent un monstre dévastateur, présenté comme une créature horrifiante, abominable, il est très souvent envoyé pour punir des transgressions. Pour prendre l'exemple du sphinx, bien connu, hein, le sphinx Œdipe, selon la tradition, le sphinx il est envoyé sur le territoire de Thèbes pour punir une faute qui avait été commise par le roi Laios, le père d'Œdipe. Donc en fait, chaque fois, très souvent, le monstre arrive dans un contexte où il est là pour justement être agent de la justice divine. Et c'est le cas dans la pièce d'Eschyle, des Érinnies, ce que les Romains appellent les Furies, que les Grecs appellent les Euménides, les Bienveillantes, pour se les concilier, pour qu'elles soient gentilles avec eux, parce que c'est des créatures totalement qui font souffrir. Et alors les Euménides, elles sont envoyées pour torturer Oreste, parce qu'il a tué sa mère. Donc elles sont des agents de la puissance divine. Et d'un autre côté, elles sont aussi présentées comme des monstres répugnants. Alors, on trouve une voie moyenne dans la pièce d'Eschyle, à la fin des Euménides, c'est que les Euménides, donc les Érinnies, les Furies, acceptent de renoncer à poursuivre Oreste. Elles renoncent à leur colère, donc elles renoncent à un châtiment qu'il aurait été légitime d'infliger au meurtrier de sa mère. Et en échange, elles acceptent d'être honorées comme des déesses vénérables, donc des déesses nécessaires, malgré leur aspect répugnant et monstrueux, au cœur de la cité d'Athènes, à qui, en échange, elles vont offrir la prospérité. Donc le monstre, c'est vraiment un être paradoxal. Il inflige de la souffrance, il est répugnant, on le déteste, il est horrible. Mais en même temps, il est là pour remplir une mission que les dieux ont voulu. En général, punir quelqu'un qui a fait une transgression. À terme, le monstre est obligé de s'effacer. En général, il est éliminé par un héros très musclé, etc. Mais quand même, son intervention, elle répond à une nécessité de justice divine. Et Médée, finalement, elle est exactement comme ça aussi.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'écriture de Sénèque, au début que peut-être ces tragédies avaient simplement été lues?
Il y a un mystère autour de ces tragédies. Hein. On ne sait pas exactement quand il les a écrites. On suppose qu'il les a écrites durant une période un peu compliquée de sa vie, au cours de laquelle, donc autour de la quarantaine, à l'avènement de l'empereur Claude, Sénèque a été exilé dans un lieu absolument abominable, horrible, puisque c'était la Corse. Et donc, il a été obligé de passer 8 années en Corse, qui à l'époque n'était pas du tout appelée l'île de beauté, mais était considérée vraiment comme un lieu de relégation terrible, loin de Rome, où on s'ennuyait à mourir et où la vie était vraiment atroce. Et donc, il a passé 8 années en exil donc exilé de manière, pour des raisons dont on n'est pas très sûr, il a été accusé d'avoir eu des relations prohibées avec une princesse de la famille royale, une des sœurs de l'empereur Caligula. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. Il a été exilé à l'instigation de Messaline, l'épouse dévergondée de l'empereur Claude. Et ce qu'on sait, c'est que pendant ces années, il a rongé son frein et beaucoup réfléchi évidemment à l'arbitraire du pouvoir de l'empereur lorsqu'il s'exerce de manière désordonnée et tyrannique, en l'occurrence lorsque c'est lui, Sénèque, qui en est la victime. Et donc c'est pour ça qu'on a pensé que c'était à ce moment-là qu'il a vécu ces tragédies, d'abord parce qu'il devait avoir du temps pour le faire, et ensuite parce qu'il y a dans ces tragédies toujours donc le ressassement autour de ce personnage du mauvais monarque qui exerce son pouvoir de justice de façon totalement arbitraire. Mais on n'a pas véritablement de certitude. C'est possible, c'est même probable, parce qu'il est sûr qu'il aurait écrit ça sous le règne de Néron. Néron aurait peut-être pu prendre les choses pour lui, et ça pouvait être un peu dangereux pour Sénèque à ce moment-là. Mais voilà.
Et son écriture tragique, comment pouvez-vous la
déterminer ? Alors, vous l'avez déjà pas si mal défini que ça, en disant pas un mot de trop, et en parlant surtout de la, pas un mot de trop, en tout cas de la puissance incroyable de ces vers. Alors, pour la traduction, c'est pas du tout évident, parce que il y a tout un tas de métaphores auxquelles il faut rester fidèle. Et donc, tout le problème de la traduction, évidemment, c'est d'abord d'essayer de ne pas atténuer cette puissance, cette violence des évocations sénéquiennes. Donc, c'est parfois difficile, parce que quand on traduit, on a un peu le réflexe de rendre les choses propres, de rendre les choses un peu lisses, un peu élégantes. Le texte est très élégant, mais disons qu'il a une espèce de violence et parfois de mauvais goût qu'il faut être capable de rendre. Donc voilà. Et ce qui a été difficile dans cette pièce aussi, c'est de traduire l'instabilité psychologique du personnage de Médée, parce qu'en fait elle n'arrête pas de passer, on l'a un peu vu avec les passages qu'a lu Marie, de la colère à l'abattement, il y a des retournements sans cesse, donc elle est, et en quelques secondes elle passe de la totale, enfin c'est la maniaco-dépressive en fait quoi. Elle passe du fin fond de la dépression à la folie déchaînée, l'énergie éructante, etc. Et donc il fallait aussi être capable de rendre ces oscillations dans la traduction, toute la richesse des métaphores, tout le phrasé. Il y a aussi beaucoup d'effets stylistiques chez Sénèque. C'est parfois un peu boursouflé, mais enfin moi j'aime bien, hein, c'est une esthétique assez baroque, mais on en a un peu plein la bouche parfois du latin. Il y a des assonances, des allitérations, des cailloux qui roulent, des éclairs, etc. Et donc ça donne aussi une traduction où j'ai été sensible à mettre beaucoup d'assonances, beaucoup d'allitérations pour essayer de transposer quelque chose du style de Sénèque. Voilà, donc des vers libres, mais avec des effets d'écho quand même assez répétés.
Oui, alors si domine finalement la figure de style, c'est l'ellipse, tout ce qui est malgré tout ce qui est dit, tout ce qui n'est pas dit, et qui entraîne en effet que quand on traduit vers à vers, il y a même un décalage entre la quantité de vers français et la quantité de vers latin.
Bien sûr.
Et puis, il y a l'antithèse constante.
Oui, c'est vrai.
Ce jeu constant sur l'opposition, qui est une des grandes figures baroques, évidemment.
Oui.
Et cette concision, on la retrouvera bien sûr chez quelqu'un qui a certainement lu beaucoup Sénèque, c'est Tacite.
Bien sûr.
Siècle suivant, les deux plus grands prosateurs latins de l'Empire sont des virtuoses de la concision.
Tacite qui raconte d'ailleurs la mort de Sénèque avec force détail. Comment Sénèque s'est ouvert les veines, puis s'est fait plonger dans un bain d'eau chaude pour accélérer le processus car il avait le sang un peu trop faible à son âge avancé. Voilà.
Et beaucoup plus tard, certainement, il y a une grande influence de ce théâtre sur Shakespeare.
Ah, ça, indéniablement. C'est sûr que le théâtre baroque, il prend ses racines dans Sénèque, et ça semble évident, cette exubérance. Alors, il n'y a pas beaucoup d'humour chez Sénèque. Il y en a un peu plus chez Shakespeare, on va dire. Mais c'est vrai qu'on retrouve cette parenté évidente.
Oui, il n'y a pas de place pour la plaisanterie dans ce genre d'action.
Non, il n'y a pas d'humour chez Sénèque. J'ai cherché, mais j'en ai...
Alors, il a écrit un texte ironique, tout de même.
Ah oui,
l'Apocalypse, si elle est de lui, satire de l'empereur Claude.
Il a écrit, enfin on pense, on n'est pas sûr, cela dit c'est pas à son honneur. Moi j'adore la Pocolo Quintos, je l'ai traduite, c'est un texte merveilleux d'humour, mais c'est pas tellement à l'honneur de Sénèque. C'est-à-dire c'est un texte qui ridiculise à la mort de l'empereur Claude, qui ridiculise l'empereur de façon vraiment abjecte, qui raconte en fait son arrivée au ciel parmi les dieux, puisque divinisé, et en fait on se demande quel dieu on va en faire de cet être bègue et claudiquant et complètement abruti. C'est la vision qu'en donne Sénèque, et il est décidé finalement, alors c'est une partie manquante du texte, mais le titre nous donne la solution. Il est décidé de le diviniser sous la forme d'une citrouille, d'une courge. Voilà. Mais c'est un texte, alors, pour le coup, qui est plein d'humour, effectivement, mais un humour, moi je trouve, qui ne fait pas honneur à Sénèque, mais qui nous laisse mesurer la haine qu'il pouvait avoir conçue, si c'est bien lui qui a écrit le texte, pour l'empereur Claude, quoi. Parce que, bon, les derniers mots de Claude, pour vous dire, on va finir sur une note scatologique, hein, c'est les derniers mots de Claude, c'est « Ah, je me suis chié dessus ». Voilà. Et tout est du même tonneau. Il est présenté vraiment comme un être ridicule, veul, cruel, et voilà, donc il croise tous les...
Or, c'est même Sénèque qui a écrit l'éloge funèbre de Claude pour Néron.
Oui, alors, il a écrit l'éloge funèbre de Claude, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est que Sénèque a été la plume de l'empereur Néron. Et c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire de Rome. Jusque-là, les hommes politiques, les empereurs, écrivaient eux-mêmes leurs discours. Et là, pour la première fois, on a un empereur qui n'écrit pas lui-même ses discours. Néron était beaucoup plus intéressé par la composition musicale. Vous savez qu'il se prenait pour un grand artiste, faisait des vocalises toute la journée, il dormait avec une plaque de plomb sur la poitrine pour améliorer sa voix, etc. Et apparemment, écrire des discours, c'était trop compliqué pour lui, ça ne l'intéressait pas. Donc effectivement, Sénèque a été la plume de Néron et a composé l'éloge funèbre de Claude. Il a aussi composé une lettre, là encore, un justificatif assez abject, après l'assassinat d'Agrippine par son fils. Assassinat dont Sénèque n'a pas été complice, mais enfin bon, complice passif, hein, on pense qu'il était au courant. Il a écrit au Sénat une justification de l'assassinat d'Agrippine par son fils, en disant qu'Agrippine conspirait contre le pouvoir et que donc elle méritait d'être assassinée. Donc on voit quand même que la complaisance par rapport à l'empereur est allée assez loin, selon qu'il a été assez mal récompensé du reste, puisque c'est sur ordre de Néron que Sénèque a dû se suicider finalement.
Je vous remercie, nous allons rester là.
Je vous remercie.